L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château de Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local. Nous sommes lundi 30 novembre. Bonjour Claire.
Bonjour tout le monde, en direct à Laval où il fait très frais ce matin.
Et oui, on a pu, je pense, tous bien le remarquer. Merci Claire. Et aujourd'hui, on va parler du théâtre d'ombre sur la scène du Carré à Château-Gontier. Ce n'est pas encore visible par le public, évidemment, mais la compagnie Les Ombres Portées était en résidence la semaine dernière et compte bien reprogrammer une date ici en 2021. Et puis, saviez-vous que les déchets alimentaires des cantines castro-gontériennes étaient récoltés à vélo pour être ensuite transformé en biogaz, une initiative mise en place en septembre dernier et qui fonctionne déjà très bien. Et puis une nouvelle chronique coup de cœur de Emily Ranjou, et désormais vous pourrez faire vos achats directement à la librairie réouverte depuis samedi.
Mais tout de suite Marie, un point sur l'actualité, plus d'un millier de personnes contre la loi sécurité globale à Laval.
Les manifestants étaient nombreux samedi après-midi dans les rues lavalloises, plus d'un millier pour exprimer leur opposition à l'article 24 de la loi qui encadre la diffusion d'images des forces de l'ordre, étaient présents dans la foule notamment le maire de Laval, Florian Bercot.
Le coronavirus circule moins vite dans la région.
La tendance à la baisse se confirme selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé. Le taux d'incidence est désormais de 123,8 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité diminue lui aussi à 11,7% en Mayenne. 95 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid, dont 10 en réanimation. L'ARS appelle malgré tout à la prudence et au respect des gestes barrières.
Réouverture des commerces ce week-end.
Depuis samedi, tous les commerces, hormis les restaurants, ont le droit de rouvrir leurs portes. Premier allègement du confinement. Et c'était également le cas hier dimanche. Le préfet de la Mayenne, Jean-Francis Treffel, a pris un arrêté pour autoriser l'ouverture des commerces tous les dimanches jusqu'à la fin de l'année.
Trois intervenants sociaux pour lutter contre les violences intrafamiliales.
Ce sera le cas en Mayenne dès le mois de février prochain. Le département sera doté de deux intervenants sociaux supplémentaires pour mieux accompagner et écouter les victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Pour le moment, il n'y avait qu'une seule intervenante. Et ce, alors que les forces de l'ordre constatent aussi une hausse des menaces de violences à l'encontre des enfants.
Et c'est un clap de fin pour l'avenir agricole.
L'hebdomadaire d'information agricole cessera de paraître le 18 décembre prochain. Journal indépendant créé en 1944 en Mayenne, il s'est ensuite étendu au Maine-et-Loire, à la Loire-Atlantique et à la Sarthe. Forcé aujourd'hui de mettre la clé sous la porte à cause de la crise de la presse papier, de la baisse du nombre d'agriculteurs et de l'évolution de leurs canaux d'information. 9 salariés dont 6 journalistes vont être licenciés. Les abonnés, eux, seront remboursés de la part de leurs abonnements qui correspondent aux journaux qu'ils ne recevront plus.
Attention, circulation interdite toute cette semaine entre Cossé-le-Vivien et Laval.
Dans le cadre des travaux du contournement de Cossé-le-Vivien, le département entreprend des travaux de réseau et d'abattage de platanes sur la D771, route qui relie Cossé-le-Vivien à Laval. Une quarantaine de platanes sera replantée pour compenser les arbres abattus. La circulation sera interdite dans les deux sens de circulation jusqu'à vendredi inclus. Une déviation est mise en place via Quelaine-Saint-Gaud.
Sur la route du Vendée Globe, abandon d'Alex Thompson.
Le skipper britannique a jeté l'éponge ce week-end alors qu'il était favori après plusieurs avaries sur son bateau, laissant le champ libre à Charlie Dalin en tête, suivi de près par Thomas Ruyant. Maxime Sorel, sur son bateau VNB Mayenne, occupe la 14e place et se dirige vers le Cap de Bonne-Espérance. Fabrice Amédéo, lui, est toujours 25e. Et puis en foot, enfin une victoire pour les Tangos. Après 7 matchs sans gagner, le Stade Lavallois s'est imposé 4-2 vendredi soir face à 7, grâce notamment au triplé de Thomas Robinet. Laval se trouve désormais à la 6e place en national.
Et Marie, à Sablé-sur-Sarthe, la salle de spectacle L'Entracte se réorganise.
D'après les annonces d'Emmanuel Macron la semaine dernière, les théâtres pourraient rouvrir le 15 décembre. L'Entracte annonce donc l'annulation du spectacle Casse-tête, initialement prévu jeudi, les vagues qui devaient avoir lieu au quai à Angers le 9 décembre et les séances de cinéma des 3 et 10 décembre. Mais dès aujourd'hui, l'accueil billetterie de L'Entracte est à nouveau ouvert pour faire le plein de spectacles pour 2021. Contact également par téléphone au 02 43 62 22 22 ou par mail à billetterie@lentracte-sablé.fr.
La scène du Carré à Château-Gontier continue d'accueillir des artistes.
La compagnie Les Ombres Portées était la semaine dernière en résidence au théâtre pour réaliser une captation vidéo de leur spectacle Natchaf. À défaut de représentation publique, initialement prévue mi-novembre au Carré, du théâtre d'ombre avec un gros travail sur la musique et surtout les décors et les marionnettes, plus de 400 jours ont été nécessaires pour les construire. Rencontre avec deux de ses créatrices en musique.
Moi, c'est Margot. Je suis arrivée au début de la création de Natchaf dans la compagnie et j'ai travaillé sur la construction des décors des marionnettes et sur la manipulation des marionnettes.
Moi, c'est Claire. Je fais aussi de la manipulation des marionnettes sur les spectacles de la compagnie et je fais aussi partie des quatre personnes qui développons et portons les différents projets que mène la compagnie. On travaille sur un spectacle qui s'appelle Natchaf. Donc, c'est un spectacle autour du thème de la liberté. On raconte une histoire donc seulement en ombre, visuellement et en musique, il n'y a pas de parole. Et donc cette histoire, c'est l'histoire d'un cirque qui arrive dans une ville, donc à Château-Gontier, pour jouer son spectacle, un peu comme tous les ans, mais sauf que cette année, c'est pas possible. Les forces de l'ordre font comprendre au cirque que non, ils ne peuvent pas s'installer sur la place du centre-ville cette fois-ci. Et ils les envoient en périphérie, un peu coincés entre la déchetterie et la voie rapide. Le cirque s'installe donc en périphérie, mais repart en centre-ville pour faire une parade, pour annoncer les représentations, parce qu'il faut bien trouver du public. Donc ils partent faire cette parade en centre-ville, qui est jugée un peu trop festive pour les forces de l'ordre qui retombent sur la troupe de circassiens. Et là, ça dégénère, ça finit en une espèce de grosse bagarre générale, et un des circassiens est arrêté et emprisonné dans la prison de la ville.
La narration, elle est vraiment portée par l'association et des images et de la musique. Et la musique, elle est à la fois musicale, entre guillemets. Enfin, il y a des parties qui sont des morceaux, mais il y a aussi des parties qui sont des bruitages avec un luthier qui a fabriqué des objets spécifiques, notamment pour l'ambiance de la prison. Et, on devait venir à Château-Gontier normalement pour jouer il y a 2 semaines et on a proposé de venir en fait une semaine pour pouvoir faire la captation du spectacle.
Oui, on l'a créé il y a 1 an et donc on l'a joué en décembre 2019, janvier, février, mars 2020 et puis on s'est fait arrêter dans notre élan de première année de tournée en mars. On a fait du coup une reprise en septembre parce qu'on n'avait pas joué quand même depuis 6 mois. On a fait 4 représentations en septembre et en octobre. C'est bien aussi pour nous d'être là pour pratiquer, quoi. Mettre les mains dans le cambouis et garder ce spectacle au chaud, quoi, parce que quand on joue pas, on perd, quoi, forcément.
Cette captation vidéo servira pour les programmateurs et notamment à l'étranger, en attendant de convenir d'une autre date pour Natchaf sur la scène du Carré. Et puis on reste à Château-Gontier, où les déchets des cantines scolaires ne partent pas à la poubelle, mais suivent un drôle de parcours, à vélo puis dans un méthaniseur. On en parle d'ici quelques minutes après Peter Cat Recording Co. Happiness.
Just as we ask, we are love-like.
Sur l'autre radio et vous écoutez l'agité du local. Depuis début septembre, vous l'avez peut-être vu dans les rues de Château-Gontier, un triporteur récolte 3 fois par semaine les déchets alimentaires issus des cantines des écoles publiques de la ville, mais pas seulement. Les précisions de Jean Louavet, c'est le responsable du service déchets à la communauté de communes du pays de Château-Gontier.
On vous présente aujourd'hui notre test de collecte des biodéchets des professionnels. Cette collecte a un aspect un peu particulier, parce que quand on parle collecte des déchets, souvent on imagine des camions, 19 tonnes, 26 tonnes. Non, là on est sur un triporteur, un vélo à 3 roues, un triporteur à assistance électrique. Et on collecte réellement des déchets en vélo, avec une remorque qui n'a rien d'anecdotique, puisqu'on peut mettre 300 kg de déchets dedans. Et on a déjà fait d'ailleurs une collecte à 280 kg. Avec 20 bacs absolument pleins de biodéchets qui ont été transformés après en biogaz. C'est là qu'on trouve tout l'intérêt de l'assistance électrique. C'est un vélo cargo, c'est-à-dire que c'est un vélo qui est adapté à cet usage. C'est un vélo utilitaire, c'est pas un vélo de route, c'est un vélo réellement utilitaire avec une batterie PCHU, avec un moteur PCHU et un dérailleur adapté. Mais néanmoins, ça demande quelques précautions. C'est ce qui est étonnant quand on parle du poids, c'est que tout le monde se dit « Oh là là, mais il faut pédaler dur pour l'enlever. » Mais personne pense au freinage. Et je peux vous dire que ça accélère très vite. Et donc, il faut absolument gérer sa vitesse. Et donc, il faut absolument gérer sa vitesse et ne pas se laisser entraîner dans les descentes, par exemple. Parce que l'ensemble en ordre de route, avec la remorque pleine de déchets, le biocycleur, on n'a pas trouvé de nom encore. Alors, si jamais vos auditeurs ont une idée géniale pour nommer la fonction de collecte des biodéchets en vélo, on est preneur. Et donc, l'ensemble en ordre de marche, c'est presque 500 kilos. Donc, il faut réussir à freiner tout ça. C'est extrêmement maniable, c'est un vélo assistance électrique, un triporteur pendulaire, c'est-à-dire que les deux roues s'inclinent à l'avant. C'est extrêmement maniable et très agréable à conduire. Et un élément qui, moi, m'a heureusement surpris, non pas que j'étais méfiant, mais j'ai été cycliste en ville et je sais que c'est pas toujours amusant. Pour avoir fait une collecte moi-même à titre de test de démarrage, je me suis rendu compte que les automobilistes étaient fort respectueux de l'attelage. Ça a levé une de mes appréhensions, effectivement, par rapport à la sécurité des agents de collecte. Les voitures sont prudentes et respectent l'attelage qui est quand même un peu encombrant. Donc l'idée m'a été glissée par un citoyen curieux qui est venu me voir dans mon bureau un jour en disant « Qu'est-ce que vous faites à la communauté de communes pour la gestion des biodéchets ?» Donc je lui ai expliqué, il est revenu me voir quelques temps après en disant « J'ai une idée, et si vous collectiez les biodéchets en vélo ?» Sur le coup, ça m'a paru un peu étonnant. Et puis très vite, je me suis demandé « Mais comment faire passer ça auprès des élus pour que ce soit pas pris, que ce soit pris au sérieux et pas pris pour une lubie ?» Et puis donc on a travaillé le projet, il est venu régulièrement m'amener quelques éléments supplémentaires, des retours d'expérience comme la tricyclerie à Nantes, des choses comme ça. Et puis moi de mon côté j'ai travaillé, à un moment j'ai réussi à emmener nos élus essayer le matériel. Parce que si l'intérêt du projet qui est particulier par sa méthode de collecte et aussi par l'aspect multipartenarial du projet, si l'intérêt était accepté, il restait quand même un petit doute à lever en disant collecter 300 kilos à vélo, ça paraît c'était trop gros. Donc on est allé à Rennes auprès du fabricant qui s'appelle Tout en Vélo, qui est utilisateur également de ses propres remorques. Et on a testé, alors dans des conditions assez amusantes, puisqu'on a testé pour simuler le poids. On a mis 4 élus dans la remorque et on pédalait devant pour essayer. Donc l'ambiance était plutôt sympa. Mais très vite, dès les premiers tours de roue, des premiers tours de pédale, ils se sont rendus compte que oui, c'était sérieux et que oui, rouler avec 300 kg de charge derrière, c'était tout à fait possible. Donc derrière, il fallait boucler le projet et lancer la phase de test. Elle aurait dû démarrer en avril 2020. Les circonstances sanitaires en ont décidé autrement. On a reporté le démarrage un peu plus tard. Donc, on a démarré gentiment pendant l'été avec le centre de loisirs. Et ensuite, on a élargi progressivement le test à tous les usagers professionnels qu'on avait identifiés. Donc, à savoir les cantines des écoles primaires publiques de Château-Gontier, le FJT, le foyer des jeunes travailleurs, les AT du Genteil et sa cuisine centrale, et le lycée Pierre et Marie Curie, Victor Hugo, enfin les deux lycées qui font cantine commune maintenant. Donc du coup, on a associé les deux lycées à la démarche. Alors non, c'est pas une tournée tous les jours, c'est une tournée par semaine. Garder les déchets plus longtemps, ça serait pas raisonnable. On parle de déchets organiques, donc on collecte une fois par semaine. Et là, actuellement, en fonction du nombre d'usagers, du nombre de bacs surtout, on a 3 tournées pour l'instant. 3 tournées dans la semaine, donc une le jeudi et 2 le vendredi. Alors là, on ramasse tous les biodéchets, c'est-à-dire tous les déchets issus de la production des repas et tous les restes de repas. C'est-à-dire ce qui a été consommé partiellement, les eaux également, les épluchures de fruits, les serviettes en papier. Évidemment, on n'y met pas les pots de yaourt et ce genre de choses qui ne sont pas des déchets organiques. En termes de quantité, on a collecté depuis le début de l'opération à peu près 300 bacs de 30 litres, ce qui représente un tonnage de 3 tonnes et demie depuis le début de l'opération. Donc 3 tonnes et demie de déchets qui ne sont pas allés dans le bac gris, qui ne sont pas allés en incinération et donc qui sont allés au méthaniseur de Château-Gontier pour produire une énergie renouvelable. Alors deux choses. La première, c'est que ce ne serait pas une bonne nouvelle s'il y avait plus de déchets. Effectivement, il faut avant tout limiter le gaspillage alimentaire puisque c'est dommage de produire de la nourriture, d'acheter de la nourriture, de cuisiner de la nourriture pour finalement que ça parte à la poubelle, quand bien même ce serait transformé en biogaz, ça reste du gaspillage. Nous, on a vocation à ramasser en fait ce qui n'est pas évitable, donc ce qui échappe au gaspillage alimentaire. Donc là, on fait un test sur les quelques usagers professionnels qu'on a vus. Pour l'instant, les résultats sont bons. Les usagers sont ravis, les équipes qu'on rencontre sont curieuses et sont contentes de participer, sont même demandeuses d'informations. Est-ce qu'on peut visiter le méthaniseur? Qu'est-ce que ça devient après? Mais pourquoi vous collectez en vélo? Est-ce qu'on peut essayer le vélo? Oui, on a un peu tout. Donc les équipes sont très contentes. Donc pour l'instant, le test se passe bien. Après, il va falloir évaluer l'efficacité de collecte. Est-ce qu'on peut collecter plus efficacement? Est-ce qu'on ne peut pas collecter plus efficacement, etc. On n'a pas encore validé l'extension, mais l'idée, c'est d'effectivement d'étendre cette collecte aux professionnels de Château-Gontier qui produisent des biodéchets. Donc les autres établissements scolaires, évidemment, mais pourquoi pas aussi les restaurateurs ou les commerçants qui produisent des biodéchets comme les primeurs ou les supérettes ou ce genre de choses. Les supermarchés ayant déjà leur filière adaptée. Et là, je pense qu'en termes de quantité, on échapperait un peu, enfin, on sortirait un peu de notre cadre de collecte. Ça fait partie des enjeux de l'évaluation. Donc je vous ai dit qu'on avait 3 tournées par semaine. L'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut faire plusieurs tournées, plus de 2 tournées par jour. Donc là, c'est une question à laquelle je dois répondre. Et ensuite, on a tous les autres jours de la semaine. On pourrait imaginer collecter du lundi au vendredi inclus. Et du coup, on pourrait augmenter d'autant le nombre de professionnels qui seraient concernés. Mais avant tout, il faut qu'on réfléchisse effectivement à l'efficacité de la collecte pour voir si on peut collecter plus que maintenant. Voilà. Mais là, c'est la mise en route, c'est nouveau pour nous, pour moi y compris. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on a commencé par une phase de test pour se faire les dents et prendre le temps de ficeler un beau projet qui soit durable. Le tri est plutôt bien fait, il y a quelques accidents, un ou deux pots de yaourt qui passent par-ci par-là, mais sur 3 tonnes 5, si on a eu 500 grammes de mauvais tri, c'est à peu près tout. Et donc on a un tri qui est très très bien fait par nos professionnels. C'est très encourageant, c'est même plus que positif, c'est carrément encourageant. Les équipes dans les cuisines ou dans les cantines, c'est des éléments, enfin, ils ont un rôle super important parce que c'est eux qui produisent du déchet de qualité ou pas. Et si le déchet de qualité, on n'a plus qu'à le vider. Si le déchet est de mauvaise qualité, on doit passer du temps de tri et c'est pas efficace. On va se donner début 2021, donc premier semestre 2021, pour vraiment évaluer la chose, puisque on a intégré les derniers usagers professionnels quasiment courant novembre. Donc il faut qu'on se donne quand même quelques mois d'utilisation. On essaye de voir aussi l'impact de la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a un impact ou pas? S'il y a un impact, lequel est-il? Pour l'instant, c'est trop tôt pour y répondre. On voit qu'il y a des cuisines qui ferment, qui font de la vente à emporter, des choses comme ça. Donc ça vient perturber un peu tout ça. Mais l'idée, c'est que l'extension... J'espère, je vais être optimiste, si le test prouve sa robustesse, qu'on puisse étendre progressivement, on ira progressivement forcément à partir de 2021, à partir du deuxième semestre par exemple, sous réserve de validation par les élus évidemment.
Ce projet rassemble plusieurs partenaires, parmi lesquels Entraide Service, une association de lutte contre la précarité sur le territoire de Château-Gontier. C'est l'employeur de Philippe Leflemme qui pédale sur le vélo. On écoute sa directrice, la directrice d'Entraide Service, Marie Montéco.
L'ensemble de mes collaborateurs ici vous ont présenté à la fois par le biais de la communauté de communes la collecte des biodéchets, puis après Vergaz le traitement des déchets. Et bien nous, on s'occupe effectivement de la personne qui pédale. Donc Philippe Leflemme, qui est un salarié qui effectivement fait les tournées, puisque ce projet avait pour vertu d'articuler en fait l'insertion, la collecte et le traitement. On a l'habitude de travailler avec la communauté de communes sur un ensemble de projets et effectivement très vite on a été séduit et on a pu penser le projet ensemble et trouver aussi une solution pour créer un emploi. Et donc voilà, on faisait partie effectivement de la réponse à apporter sur le territoire. Nous, on porte la fonction employeur, donc à l'association Entraide Service, c'est à peu près 90 salariés qui travaillent pour certains en mise à disposition. Donc voilà, on avait dans les salariés que nous avons à l'association, Philippe qui était très sensible à la question de la collecte et du traitement des déchets et à l'écologie. Donc vraiment, c'était le personnage idéal pour pouvoir être associé à ce projet. Quand on lui a présenté, il a eu, j'allais dire assez instinctivement, l'envie de pouvoir tester à la fois le vélo et à la fois la collecte, puisque c'est quand même un vélo assez atypique, avec des particularités. Et puis Philippe est aussi un VTTiste, donc voilà, vraiment le lien a été fait sans aucun problème. Le profil idéal. Alors voilà, c'est un temps partiel. Philippe a d'autres missions aussi au niveau de l'association, mais comme on est sur une démarche expérimentale, ça permettait de voir la montée en charge et de voir comment effectivement aussi les tournées s'organisaient. Donc l'idée c'est de pouvoir après monter crescendo en fonction des besoins et du travail que Jean-Loup peut faire avec l'ensemble des écoles et des différents lieux de collecte pour pouvoir aussi adapter le poste de Philippe en fonction des besoins. C'est vraiment une dimension vertueuse qui permet de rapprocher plusieurs mondes, à la fois le monde de l'insertion, à la fois le monde de la collecte et de la collectivité, et aussi le traitement des déchets et la valorisation. Donc on est vraiment sur un passage, des passerelles, et puis comment créer des réponses adaptées au territoire en faisant du lien entre toutes ces dimensions-là.
Puisque la dimension de recyclage est très importante aussi, une fois récoltés, les biodéchets sont envoyés à l'unité de méthanisation du pays de Château-Gontier. François Lebris est responsable de la gestion des flux pour Evergaz qui exploite ce méthaniseur.
C'est tout naturellement qu'on a accompagné ce projet de collecte des biodéchets, qu'on a adapté notre outil pour pouvoir les recevoir et les traiter. Et donc ces biodéchets, on les valorise par la méthanisation, une fermentation bactérienne qui se produit dans nos cuves, et qui produisent du biogaz. Ce biogaz, il est valorisé sous forme d'électricité qui est injectée sur le réseau, mais aussi de chaleur issue du refroidissement du moteur qui génère l'électricité. Cette chaleur, on l'injecte sur un réseau de chaleur et elle vient en substitution de chaleur produite par des énergies fossiles. Et puis on a un troisième volet de valorisation qui est le digesta qu'on produit et qui est un engrais qu'on valorise chez des partenaires agricoles pour la fertilisation de leur culture. Et là encore, on vient en substitution des engrais chimiques azotés classiques. Mais en fait, ces matières, une fois réceptionnées sur site, on va faire un contrôle de qualité, on va enlever les derniers indésirables qui peuvent rester, un pot de yaourt, un morceau de plastique. Ensuite, on va l'incorporer dans le process de méthanisation, via une trémie, on va malaxer, mélanger la matière, la mettre sous forme liquide, la mettre en contact des bactéries au sein de la cuve de méthanisation. Et donc c'est ces bactéries qui vont transformer la matière, la dégrader et la transformer en biogaz. Le processus est assez long, assez complexe, il y a plusieurs familles de bactéries qui interviennent, mais en 30-40 jours, la matière est décomposée et transformée en gaz. Notre outil de méthanisation, il a été conçu pour réceptionner des matières livrées en vrac en grand volume, en benne, en citerne. Et donc, on a dû s'adapter pour recevoir ces petits contenants. Donc, dédier un espace pour que l'opérateur puisse décharger ses bacs en sécurité, en évitant l'interaction avec les autres engins de livraison. Et puis aménager aussi les conditions pour que le faire dans de bonnes conditions sanitaires de nettoyage des bacs et d'aménagement du site. Ça génère du gaz malgré tout, quoi. Ça va dépendre aussi de la typologie de matière. En fait, si on est sur du déchet de légumes, on a moins de production que si on est sur des restes de pâtes ou de viande, enfin des produits plus riches en protéines. Ce qui fait sens, c'est de pouvoir extraire ces matières qui n'ont aucun intérêt dans les filières de recyclage habituelles, enfin, ou vers l'incinération, de pouvoir les extraire, les collecter et les emmener en traitement en circuit court, en local. On va avoir déjà une économie sur le transport. Et puis les utiliser pour produire de l'électricité, l'injecter encore en local. On arrive à faire des boucles qui sont assez vertueuses, en fait.
Depuis le début de l'expérimentation, 3,5 tonnes de déchets ont été récoltés puis valorisés en biogaz, ce qui a permis de produire 1 MWh d'électricité. Le triporteur pourrait allonger ses tournées et passer dans d'autres établissements d'ici quelques mois. On revient d'ici quelques minutes après avoir écouté Angèle avec le titre « La Thune ».
Tout le monde il veut seulement la thune, et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la fame, et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre, photo sur Insta c'est obligé. Sinon au fond à quoi ça sert, si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon, tellement seul derrière ton écran, tu penses à ce que vont penser les gens, mais tu les laisses tous indifférents. Oh, oh, oh. Peut-être je devrais m'éloigner, loin du game, loin du danger. Mais j'avoue, j'aime bien jouer. Si c'est de moi dont on va parler, ou j'oublie tout et je m'en vais. Yeah, moi je m'en vais marcher, naïve comme jamais, loin des regards armés. À quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran, tu penses à ce que vont penser les gens. Tu les laisses tous indifférents. Et puis à quoi bon? T'es tellement seul avec ton argent, tu sais même pas pourquoi t'es tout le temps avec des miches sans sentiments. Au fond j'avoue que même moi, je fais partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Et seulement ça, ça les fait bander.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et seulement ça, ça les fait bouger.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran.
Tout le monde il veut seulement la thune.
Tu penses à ce que vont penser les gens.
Tout le monde il veut seulement la fame.
Mais tu les laisses tous indifférents.
Angèle avec La Thune sur l'autre radio. Comme tous les commerces de centre-ville, la librairie M. Nirenjou à Château-Gontier a rouvert ses portes ce samedi. L'occasion d'aller dénicher de belles pépites et d'aller faire vos achats de Noël. Pour vous aider, voici l'un des coups de cœur de Christophe. On l'écoute.
Emily Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Ce livre est un peu bizarre. C'est le nouveau livre de Philippe Claudel, de l'Académie Goncourt. Philippe Claudel, vous le connaissez, il est célèbre pour des livres comme « Nos âmes grises »,« Les âmes grises » et aussi « Le rapport Brodeck », entre autres. Ce nouveau livre, aux éditions Stock, s'intitule « Fantaisie allemande ». Tiens, tiens, bizarre. En tout cas, la couverture est juste magnifique. Elle vous invite à prendre ce petit livre en main et à découvrir qu'il se compose de 5 nouvelles. 5 textes courts qui ont été écrits à différentes périodes de ces dernières années. 5 nouvelles dérangeantes et étrangement liées l'une à l'autre. Elles ont pour cadre l'Allemagne du XXe siècle, car Philippe Claudel est passionné par cette Allemagne. En tant que Lorrain, il a vécu et il continue à vivre près de l'Allemagne et il a toujours un regard très très intéressé sur ce pays et sur son histoire. Et bien là, toutes les nouvelles vont être liées par un personnage du nom de Victor. Alors Victor, il va passer d'une époque à une autre, mais tout ça est subtilement fait par un auteur qui va créer un sentiment de malaise, un sentiment de réflexion aussi à travers ces nouvelles. Parce que les thèmes chers de Philippe Claudel vont être à nouveau mis en avant, ceux de l'histoire, de la mémoire, ceux de la culpabilité et ceux aussi de l'identité. Car ce Victor peut-il, à différents moments de ce siècle, peut-il avoir différents visages, peut-être différentes identités? Alors, c'est étonnant, c'est un livre qui m'a vraiment plu par son originalité, par la force de certaines nouvelles, certaines sont un peu plus fortes que d'autres, et le caractère troublant vers lequel l'auteur veut vraiment nous amener. J'ai beaucoup aimé Fantaisie allemande de Philippe Claudel aux éditions Stock.
Retrouvez Emlir en joue, 10 places Paul Doumer, à Château-Gontier, et sur l'autre radio.
Et oui, sur l'autreradio.fr, le site où vous pouvez retrouver tous les coups de cœur de Christophe et Fanny, et même François, donc de la librairie Emlir en joue à Château-Gontier. Et on termine cette émission, ça marche aussi, avec notre rubrique initiative avec toi, Claire. Et faute de marché de Noël à Mayenne, on le sait, cette année, c'est un peu compliqué, un bar propose ses services.
Et oui, Sylvie et Pauline sont les patronnes du bar La Piraterie à Mayenne. Elles avaient déjà proposé la livraison pour le premier confinement. Pour le deuxième, elles proposent d'accueillir les produits des artisans locaux. En effet, normalement, les producteurs et artisans pouvaient présenter leurs produits au marché de Noël, mais celui-ci est annulé. Le bar va donc servir de relais, un moyen de rendre service aux autres. Si vous êtes intéressé, contactez La Piraterie au 06 66 53 17 26.
À Bray, un restaurateur livre des repas.
Thierry Bro est restaurateur pour Le Bréant, un établissement qui accueille le midi beaucoup de salariés et d'ouvriers. La fermeture de son restaurant par rapport aux restrictions sanitaires n'a pas arrêté le restaurateur. Il a décidé de livrer ses repas directement à ses clients. Son second de cuisine est devenu livreur et tous deux partent sur plusieurs lieux de chantier. Il livre une cinquantaine de repas par jour. Cette initiative apporte beaucoup de réconfort aux ouvriers pour qui il est de plus en plus compliqué de se restaurer et durera jusqu'à la réouverture. Ouverture du restaurant.
Si tout va bien, donc ce sera aux alentours du 20 janvier. Un nouveau défi sportif proposé par l'athlétique Laigné-Loigné.
Le club de football du pays de Château-Gontier propose pour ce deuxième confinement un grand défi sportif, parcourir 5600 bornes. Chaque jour, les coureurs envoient la distance parcourue avec photo à l'appui et le cumul des kilomètres est fait. Pourquoi 5600 bornes? Car c'est la distance du club New York. Pourquoi les États-Unis? Parce que c'est le pays de leur emblème, l'aigle. Si l'objectif est atteint, il y a à la clé 3 burgers offerts par tirage au sort, par GIA Gastronomie. et il y a déjà 56 personnes qui ont envoyé leurs résultats de course avec 142 sessions de course à une moyenne de 8 km. Donc rendez-vous sur leur compte Facebook Athlétique Lénier Loignet.
Et donc on a une idée de combien de kilomètres ça fait au total ? Ils en sont à combien sur les 600. D'accord, mais on sait pas pour l'instant à combien ils en sont.
J'ai regardé, je crois que c'est 3600 pour l'instant.
Ah oui, donc c'est pas mal.
Donc il reste encore 2000 km, donc allez-y, enfilez les chaussures et on y va quoi.
Exactement, et après en plus, visiblement, si j'ai bien compris, on peut se récompenser par un burger après avoir perdu plein de calories en courant.
Donc, après l'effort, le grand réconfort. Quoi. C'est vraiment...
Exactement, donc ça à retrouver sur le compte Facebook, tu l'as dit Claire, Athlétique Lénier Loignet. Et donc vous pouvez aussi sur Facebook nous suivre le compte L'Autre Radio tout simplement. N'hésitez pas à envoyer vos initiatives aussi par téléphone si vous préférez, ça marche aussi au 09 70 40 59 40. Merci Claire.
Merci Marie, à demain tout le monde.
Et à demain, bon après-midi à toi puisque c'est déjà la fin de notre émission L'Agité du local, à suivre sur l'antenne à 19h Solénoïde, à 20h retrouver la discothèque du programmateur, suivi à 21h de l'émission Eldorado. Et nous on se retrouve donc demain. Eh bien, bon après-midi, et puis à demain Claire, et à demain tout le monde.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.